Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Lucas Lazo et Nicolas Sendé, mais aussi Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon et Margot Leridon. À la réalisation ce matin, c'est Benjamin Hu, et à la technique, c'est l'excellent Jean-Frédéric. Deuxième temps de notre série sur les 10 ans des printemps arabes, après avoir évoqué hier l'expérience démocratique tunisienne, avant d'aborder demain l'internationalisation des guerres civiles en Syrie et en Libye, et puis jeudi, la tentative de dépassement du confessionnalisme du côté du Liban et de l'Irak. Tournons-nous aujourd'hui vers l'un des pays les plus touchés en 2011 par le mouvement révolutionnaire, l'Égypte.
On a tout le peuple avec nous, on a tout le monde arabe derrière nous, et avec nos mains, nos propres mains, et d'une façon très pacifique, sans une goutte de sang, pas comme lui, et sans régime criminel, on va le faire sauter, et on va le mettre à la porte, et il va dégager.
La foule explose, crie Dieu est grand, comme si la démission du président Moubarak était un miracle.
Je demande à l'armée de rester jusqu'à l'accomplissement de la feuille de route. L'armée doit rester avec nous. C'est grâce à son soutien que l'Égypte s'en sortira.
Je jure au nom de Dieu Tout-Puissant de respecter la loi, la Constitution, le système démocratique, de respecter et de prendre soin des intérêts du peuple, et de préserver l'indépendance de la nation et son intégrité territoriale.
En janvier 2010, dans le sillage de la Tunisie voisine, l'Égypte s'embrase et la rue réclame le départ d'Hosni Moubarak. À l'époque, le pays est dirigé par un président issu des rangs de l'armée qui est aux manettes depuis 1952 et le renversement du roi Farouk. Mais face à la pression des manifestants rassemblés jour et nuit place Tahrir au centre du Caire, la junte militaire décide de se ranger de leur côté et de déposer le raïs. Dans les rues, le peuple salue ses soldats avec qui, main dans la main, ils marchent vers la liberté et la démocratie. Des élections sont alors organisées, portant Mohamed Morsi, le leader des frères musulmans, à la tête de l'État. C'est alors le premier dirigeant de l'histoire du pays à être élu au suffrage universel lors d'un scrutin libre. Mais l'expérience sera de courte durée, puisque, à nouveau encouragé par une partie de la rue, Morsi sera débarqué, déposé par un appareil sécuritaire qui fait alors son grand retour au pouvoir en la personne du maréchal Al-Sissi qu'on entendait à l'instant, qui depuis ne l'a pas quitté. Alors pourquoi cette expérience démocratique a-t-elle tourné court? Pourquoi ce retour de l'armée au pouvoir était-il inexorable? Et quel bilan peut-on faire de cette décennie 2010 pour un pays qui aspirait à plus de liberté, mais aussi à plus de prospérité? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin d'abord Stéphane Lacroix. Bonjour Stéphane Lacroix.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignant-chercheur aux séries Sciences Po. Vous aviez signé il y a quelque temps l'Égypte en révolution. C'était au PUF en 2015 déjà et les choses ont avancé depuis et on va pouvoir en parler largement ce matin ensemble. Clémence Teher est avec nous également ce matin. Bonjour Clémence Teher.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes chercheur au CNRS, au laboratoire LADIS, dans le cadre du projet Tarika sur les changements politiques et socio-institutionnels dans l'ensemble de l'Afrique du Nord. Merci d'être avec nous l'un et l'autre. Stéphane Lacroix, quand on parle de la révolution égyptienne ici, nous faisons référence à 2011. On fait référence à ce moment où les gens se sont mobilisés pour demander la fin du règne d'Hosni Moubarak. En revanche, si on est du côté du Caire, ce qu'on appelle la révolution, c'est le moment où, en 2013, l'armée reprend le contrôle du pouvoir au président Morsi, qui, qu'on le veuille ou non, avait été désigné par un processus électoral. En fait, le fait révolutionnaire n'est pas le même selon là où on se place, Stéphane Lacroix.
Oui, en effet, il y a dans le régime actuel, le régime militaire qui s'est installé au pouvoir au Caire depuis 2013, une volonté de réécrire cette histoire de la révolution. Et on a aujourd'hui un récit, on pourrait dire un contre-récit, qui essaye de s'imposer contre le récit révolutionnaire, celui qu'on connaît, celui qui fait de 2011 une année de révolution. Donc effectivement, quand on parle avec les gens du régime Sissi, eh bien ils nous expliquent que 2011, ça n'était pas une révolution, c'était un complot orchestré par les frères musulmans, évidemment, mais aussi toute une série de puissances étrangères hostiles à l'Égypte. On nous explique en particulier que Barack Obama était lui-même frère musulman et que c'est pour ça qu'il a soutenu les manifestations en Égypte. Et on nous explique ensuite qu'en 2013, il y a eu un mouvement de correction où la valeureuse armée égyptienne est intervenue pour sauver l'État égyptien de son effondrement. Effondrement, là encore, fruit du complot des frères musulmans et de tous ceux qui voulaient déstabiliser l'Égypte. Donc effectivement, ce récit qui peut faire sourire quand on l'entend comme ça, il a aujourd'hui pris sur une partie de la population, et en tout cas sur toute cette partie de la population qui n'est pas négligeable, qui continue de soutenir le régime militaire en place en Égypte.
Et il faut dire évidemment que ça prend aussi parce qu'il y a un travail très important du régime, on contrôle cet héritage, il y a une vraie bataille mémorielle autour de tout ça, on va effacer minutieusement les graffitis des mouvements de 2011, mettre au contraire en avant tous ceux qui sont liés à la contre-révolution de 2013, enfin je dis contre-révolution de 2013, hein, Clémence Thuer, au fond, voilà, là aussi, ça dépend de où on se place, révolution contre révolution, c'est pas toujours... c'est une question de point de vue, en réalité, Clémence Thuer.
Disons, oui et non. Comme le disait Stéphane, enfin le discours que vient de présenter Stéphane est effectivement un discours qui est tenu dans les médias officiels égyptiens depuis 2013 ou en tout cas 2014. En même temps, officiellement, le régime ne condamne pas 2011. Hein, il se réclame de 2011 officiellement, tout en laissant les propagandistes le présenter comme effectivement le fruit d'un complot international orchestré contre l'État égyptien. Donc il y a quand même une certaine ambiguïté du régime par rapport à ce moment révolutionnaire de 2011.
Stéphane Lacroix, juillet 2013, donc un an après son élection, on a des forces militaires égyptiennes qui font tomber le président Morsi alors que des manifestations se sont enchaînées et que des violences très importantes éclatent au Caire avec des morts à la clé, beaucoup de morts à la clé. En quelques heures, on va avoir une armée qui va envoyer un ultimatum d'abord à Morsi pour lui demander de rétablir l'ordre. Il va être arrêté et puis sa destitution officiellement annoncée. Stéphane Lacroix, qu'est-ce qui va poser problème à l'armée? En quoi l'arrivée au pouvoir de Morsi était un problème? Et est-ce que tout cela était inexorable? C'est-à-dire que, est-ce qu'à partir du moment où on avait cette élection de Morsi, cette destitution par l'armée était-elle incontournable selon vous, Stéphane Lacroix? C'était joué d'avance ou pas?
Alors, oui et non, là aussi. Disons que dans l'armée, on avait des opinions divergentes. Hein. Je pense que quand on se place en 2011, l'armée, c'est une institution complexe où il y a des gens qui ne sont pas tous d'accord. S'il y a une chose qui les réunit, c'est la volonté de préserver à tout prix ce que l'armée égyptienne considère comme ses intérêts. Et quand on parle de l'armée égyptienne, il faut bien voir que on parle surtout, en fait, d'une caste militaire composée de quelques dizaines de milliers d'officiers qui jouissent de privilèges bien supérieurs à ceux dont jouissent le commun des Égyptiens. Une classe qui, de plus en plus, est dans la reproduction sociale. On a en Égypte des familles de militaires, de plus en plus, avec des gens qui, justement, n'entrent dans les académies militaires que parce qu'ils ont des connexions, des liens, souvent familiaux. Et donc, le commun des Égyptiens ne peut pas entrer comme ça pour faire ses études dans une académie militaire. Ce sont ces académies militaires qui produisent les officiers. Donc, tout ce groupe est tenu par des intérêts qu'il estime devoir préserver. Des intérêts, là encore, matériels, qui sont liés à son propre bien-être comme groupe social, mais aussi, effectivement, une vision de sa mission pour l'Égypte, qui est de protéger le pays. Donc on a toute une idée de cette armée qui serait le cœur, la colonne vertébrale de l'État égyptien, et c'est le cas depuis la période nassérienne, qui a institué l'armée comme colonne vertébrale de l'État égyptien. Donc c'est avec toutes ces idées-là que l'armée voit se dérouler le soulèvement de 2011. Elle le soutient d'abord parce que elle était en bisbille avec Moubarak depuis plusieurs années. La situation s'était tendue. Moubarak est issu de l'armée, mais il était vu comme ayant, dans les dernières années de son mandat, menacé les intérêts de l'armée en soutenant l'émergence d'un secteur privé, de jeunes hommes d'affaires en particulier qui, là encore, prenaient de plus en plus de place dans le champ économique, dans le champ politique. Dans le champ économique, c'est pas rien parce que l'armée en Égypte est aussi une puissance économique et donc elle contrôle toute une partie des entreprises égyptiennes dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le militaire comme l'agroalimentaire, etc. Donc, il y avait une concurrence entre ces deux groupes, les militaires qui étaient la colonne vertébrale et puis ce nouveau groupe qui était monté sous Moubarak. C'est pour ça qu'elle soutient d'abord le renversement de Moubarak. pas par attachement à la démocratie, parce qu'elle considère que Moubarak en est venu à menacer ses intérêts. Et ce qu'elle va vouloir faire pendant toute la période 2011-2013, c'est se positionner pour préserver ses intérêts en tant que groupe. Et donc quand Mursi arrive au pouvoir, alors il est vu d'un mauvais œil, dans l'armée on n'aime pas les frères musulmans, quand on est nommé ou quand on est promu dans l'armée égyptienne, c'est souvent sur la base de son hostilité aux frères musulmans, hein. Vous avez tout un service de renseignement militaire dans l'armée qui fait en sorte que vous n'ayez aucun lien avec les frères musulmans pour vous promouvoir. Et donc Mursi est vu d'un mauvais œil, il est vu de plus en plus comme quelqu'un qui, à terme, avec sa confrérie des frères musulmans, va en venir à menacer les intérêts de l'armée. Au départ, certains militaires sont prêts à s'accommoder et à faire un compromis avec Mursi, de partage du pouvoir, en fait, d'une certaine manière. Vous touchez pas aux intérêts de l'armée et on vous laisse gouverner. Et puis, petit à petit, effectivement, l'opinion dominante chez les militaires, représentée par Sissi, va être que il faut le renverser.
Mais parce que Mursi, au fond, n'a pas rempli sa part du contrat, c'est-à-dire celle qui consistait à laisser justement l'armée gérer ses intérêts.
Alors, du point de vue des frères musulmans, ils ont rempli leur part du contrat. C'est d'ailleurs pour ça que les frères musulmans ont longtemps cru que l'armée serait de leur côté. Quand on voit la constitution en particulier qui est passée sous Mursi, hein, la constitution votée en décembre 2012, constitution qui avait fait hurler les libéraux égyptiens parce qu'elle était très islamisée, hein, il y avait toute une insistance sur la place de la religion, etc., et la place de la charia. Mais cette même constitution reconnaissait à l'armée un rôle central, reconnaissait que l'armée avait le droit de regard sur son budget à l'écart de la société, donnait à l'armée les prérogatives et les privilèges qu'elle estimait devoir avoir. Donc les frères musulmans pensaient avoir rempli leur part du contrat. Mais c'est vrai que la situation va se dégrader à partir de là. Les militaires ne sont pas satisfaits. Il y a aussi évidemment cette idée que les frères musulmans sont malgré tout une puissance hostile, une contre-élite qui n'appartient pas, à laquelle on prête toutes sortes de desseins malveillants. Et puis, il n'y a pas que l'armée dans cette histoire. Ce qu'il faut dire aussi dans le coup d'État de 2013, c'est une coalition, en fait, dont l'armée et l'élément moteur, mais vous avez aussi l'appareil sécuritaire, toute une série d'appareils d'État, la justice, et puis une partie de la rue aussi, une partie de la rue qui, justement parce que les frères musulmans sont vus comme étant un groupe qui est mu par toutes sortes d'intérêts occultes qui consisteraient à confisquer le pouvoir à son profit, tout ça va faire qu'effectivement l'armée va tirer son épingle du jeu et décider d'intervenir.
Clémence Tuer, les frères musulmans, parce qu'il y a beaucoup de cadres, on sait, de la confrérie qui ont été arrêtés, condamnés, forcés à l'exil. Mohamed Morsi, lui, est décédé, on s'en souvient, en juin 2019, alors qu'il était en plein procès. L'ancien chef frériste, Mohamed Badier, a été condamné à la prison à vie. Qu'est-ce qu'il reste de ces frères musulmans 10 ans après la révolution de 2011, 8 après la contre-révolution, et quelle menace politique, en tout cas du point de vue de l'armée, il représente aujourd'hui pour le régime en place?
Alors, les frères musulmans, enfin la direction des frères musulmans, une grande partie effectivement des dirigeants, des cadres des frères musulmans ont été arrêtés en 2013 à la suite du renversement de Morsi. Donc non seulement Morsi lui-même, mais une bonne partie des députés, enfin des anciens députés frères, du chef du Parlement, des ministres. Et des cadres intermédiaires aussi, hein, de la confrérie qui a été désorganisée en fait pendant des années, et une autre partie restée en Égypte dans la clandestinité, et enfin une grande partie vit actuellement à l'étranger, hein, donc avec deux grands centres à Istanbul en Turquie et à Londres, et eux-mêmes sont divisés sur la conduite à tenir, l'attitude à tenir par rapport au régime, par rapport au reste de l'opposition.
C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'une partie des frères musulmans pense que la confrérie doit reconnaître ses erreurs, essayer de se rapprocher de l'opposition. Une autre partie pense au contraire qu'il faudrait essayer de s'accommoder du régime et peut-être rechercher un modus vivendi avec lui. Donc il y a des divisions et des divisions stratégiques, hein, qui existent au sein des dirigeants des frères musulmans aujourd'hui.
On imagine que ces divisions, on les retrouve aussi du côté du pouvoir, du côté de l'armée, entre ceux qui considèrent qu'il y a peut-être un dialogue à mettre en place avec les frères musulmans, avec ceux qui au contraire prônent rejette l'idée d'une réconciliation. Quel est l'état de cette division et le rapport de force entre ces deux camps et puis peut-être la position du président Al-Sissi sur ce sujet?
Alors là aussi, évidemment, ce qui se passe au sein de l'armée, c'est difficile de savoir. Il y a des indices, comme les tentatives de candidature de militaires ou d'anciens militaires, comme Ahmed Chafi ou l'ancien chef d'état-major Sami Anan en 2018, qui se serait opposé à Sissi dans le cadre de sa réélection à la présidentielle. Donc il y avait eu des tentatives de déposer ces candidatures qui ont été empêchées par l'appareil de sécurité. Une partie aussi des anciennes élites de l'ancien régime de Moubarak aujourd'hui est assez critique par rapport au régime et cherche là aussi à dialoguer avec donc une partie des frères musulmans, avec les libéraux, avec les socialistes. Donc il y a des indices qui montrent qu'effectivement tout le monde au sein des soutiens au régime n'est pas d'accord sur la stratégie adoptée.
Stéphane Lacroix, l'argument massue, j'allais dire, de l'armée et notamment d'Al-Sissi qui justifie la contre-révolution 2013 et donc la reprise du pouvoir à Mohamed Morsi, c'est l'idée que en réalité l'islam politique porté par Morsi contenait en germe une dérive possible, même inévitable, avec peut-être l'aboutissement à terme à une forme de théocratie, voire carrément à un terrorisme islamiste généralisé. Il se trouve que on a souvent cet argument selon lequel, eh bien, Al-Sissi serait le meilleur rempart contre le risque terroriste. Or, il se trouve que le pays est loin d'être épargné par le phénomène, et notamment dans le Sinaï en particulier. Quelle est la réalité, Stéphane Lacroix, de cette menace terroriste aujourd'hui? Et quel bilan vous faites de l'action d'Al-Sissi dans la lutte contre les groupes djihadistes? Est-ce que, effectivement, l'armée est un rempart satisfaisant contre le terrorisme en Égypte?
Alors, comme vous le dites, en effet, cet argument, il va être crucial dans la légitimation du pouvoir de Sissi après l'été 2013, et en particulier à l'international. Parce que, effectivement, dans un premier temps, les États-Unis notamment, mais aussi, dans une moindre mesure, les pays européens, sont un peu gênés par cette prise de pouvoir de Sissi, le renversement d'un président démocratiquement élu, même si, évidemment, les frères musulmans ne sont pas nécessairement en odeur de sainteté dans les capitales occidentales, mais en même temps, la manière dont l'armée a pris le pouvoir dérange. Et c'est effectivement toute cette rhétorique de lutte contre le terrorisme qui va petit à petit rendre Sissi présentable, le rendre acceptable aux yeux des Américains, aux yeux des Européens. Et alors, évidemment, ce qui est paradoxal, c'est que l'armée utilise toute cette rhétorique, mais en même temps, évidemment, le coup d'État, il s'est traduit d'abord par une violence considérable, en particulier à l'égard des militants des Frères musulmans dans un premier temps. Il y a le massacre de la place Rabah al-Adawiya en août 2013, avec près d'un millier de morts en une seule journée. Et dans la foulée de ça, de fait, effectivement, une insurrection armée de basse intensité dans le territoire égyptien, menée par en partie certains militants issus des frères musulmans, mais aussi les groupes djihadistes qui vont justement utiliser ce qui s'est passé pour dire, on vous l'avait bien dit, il y a que les armes qui fonctionnent. Regardez, les frères musulmans ont essayé de se faire accepter démocratiquement, ils ont gagné les élections et on les a renversés. Donc on vous l'avait dit depuis le début, on peut y arriver que par les armes, donc prenez les armes et rejoignez-nous. Et donc en particulier dans cette région du Sinaï, qui est une région où l'autorité de l'État en fait est relativement absente, elle l'a toujours été, c'est une région qui est extrêmement impénétrable, où il est extrêmement facile pour des groupes armés de se cacher, de trouver du soutien. Et donc, effectivement, on va voir se mettre en place une insurrection qui, pour partie, est menée par des groupes par des militants issus des frères musulmans dans toute l'Égypte, mais aussi, plus spécifiquement au Sinaï, menée par des groupes djihadistes. Et on voit que l'armée, en effet, peine énormément à combattre cette insurrection. Puisque au Sinaï, ça fait 7 ans que l'armée annonce en permanence une victoire prochaine sur les militants, et régulièrement on les voit réapparaître. Alors c'est évidemment aussi lié à la manière dont l'armée traite le problème, puisque l'armée elle traite les choses entre guillemets à la schlag, c'est-à-dire que quand les militaires interviennent au Sinaï, ils bombardent des villages entiers par l'aviation, et donc ils retournent toute une partie de la population du côté des djihadistes. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand vous brutalisez une population population tout entière pour combattre quelques militants en son sein, ben très vite, en fait, vous tournez cette population contre vous, d'autant que dans le Sinaï, il y a des griefs anciens contre l'État égyptien qui est considéré comme ayant un peu abandonné la région depuis longtemps. Donc effectivement, 7 ans après, on peut dire que l'armée a le plus grand mal à combattre ces militants qui se réclament de l'État islamique depuis 2014. Donc c'est l'une des branches les plus actives de l'organisation État islamique. Et c'est vrai que l'armée, pour le coup, quand bien même elle voudrait être le rempart contre le terrorisme, on peut dire que sur la question du Sinaï, elle a très largement failli.
Clémence Tuer, vous partagez ce constat. Finalement, Al-Sisi, avec ses méthodes sécuritaires ultra répressives, a participé d'une forme de renforcement de ses groupes armés dans le Sinaï. Clémence Tuer.
Alors, je ne suis pas un spécialiste des questions de sécurité. Hein. Je voulais quand même rajouter, par rapport à ce que Stéphane a dit, peut-être nuancer un peu, qu'il y a quand même des plans de développement économique du Sinaï qui ont été mis en place, enfin qui ont été débloqués ces dernières années. Donc l'idée quand même que l'État se rend compte qu'il y a une impasse dans cette stratégie du tout sécuritaire et qu'il cherche à investir dans le Sinaï pour améliorer la vie des habitants, justement. Une reconnaissance finalement par l'État égyptien que la question du Sinaï ne peut pas être traitée uniquement de questions sécuritaires, hein, de manière sécuritaire.
Je vous en prie.
Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que cette question de la stabilité, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la rhétorique du régime en interne. Hein. Il y a eu dès le départ, dès 2013, une peur entretenue par une partie des médias d'un effondrement de l'État égyptien. Le risque qui était présenté par les médias égyptiens avec les frères musulmans au pouvoir à l'époque, c'était que l'Égypte connaisse une guerre civile, un effondrement de l'État comme la Syrie, la Libye ou le Yémen. Et cette peur d'un effondrement de l'État a énormément joué dans la rhétorique pro-Sisi. Il joue encore un rôle aujourd'hui.
Stéphane Lacroix, qu'est-ce que vous répondez à ce que nous dit Clémence Tuer? On va faire évidemment, on va consacrer une partie de notre échange à la dimension purement économique, mais s'agissant justement de cette utilisation des investissements pour lutter contre le phénomène terroriste, qu'est-ce qui a été fait par Al-Sisi justement pour essayer un peu de développer ces territoires qui sont historiquement en marge et qui, évidemment, si on les laisse à la marge, participent de ce cycle de violence et renforcent les groupes armés?
Alors effectivement, sur le tard, je suis d'accord avec Clément, sur le tard, le régime a compris l'impasse et il a commencé à vouloir annoncer des projets de développement au Sinaï, projets qui pour le moment sont quand même pour l'essentiel à l'état d'annonce. Pour beaucoup parce que le régime n'a pas beaucoup les moyens de ces projets, c'est-à-dire que ça coûte cher. Et on va revenir sur la dimension économique, mais l'un des problèmes est précisément que c'est un régime qui financièrement est extrêmement dépendant de l'étranger. Il ne produit pas grand-chose économiquement. L'Égypte est plutôt dans une situation de déficit chronique. Elle a pu mettre en place un certain nombre de grands projets ces dernières années, c'est vrai, essentiellement du fait des aides que le pays recevait et reçoit d'ailleurs de moins en moins de la part de deux pays du Golfe que sont l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui pour des raisons politiques ont soutenu la prise de pouvoir de Sisi en 2013 et qui depuis ont tout fait pour essayer de maintenir l'Égypte à flot, considérant encore que les frères musulmans étaient une menace, et une menace pour ces monarchies du Golfe elles-mêmes, que donc il fallait à tout prix stabiliser le régime. Donc c'est vrai que, bon, quand on pense par exemple à la construction du deuxième canal de Suez, où là on n'est pas loin du Sinaï, hein, c'est ce canal de Suez qui longe toute la, qui est à l'embouchure de entre la mer Rouge et la Méditerranée, et donc à la frontière du Sinaï. Mais c'est vrai que les projets de développement plus spécifiques qui ont été annoncés, pour le moment là encore, moi j'ai l'impression que c'est surtout des annonces. Là encore, du fait d'un pouvoir qui comprend peut-être en effet en partie l'impasse de sa stratégie sécuritaire, mais qui n'a pas vraiment les moyens économiques de faire beaucoup mieux que du sécuritaire.
On va parler justement d'économie. Quand on parle d'économie, on parle nécessairement de l'armée. Je propose d'écouter d'abord le témoignage d'un homme qui, en 2019, avait fait toute une série de révélations sur la corruption au sein de l'armée. Cet homme, c'est Mohamed Ali, entrepreneur égyptien, exilé d'abord en Espagne, puis ensuite en Grande-Bretagne.
Je savais que je m'apprêtais à faire des affaires avec une grande institution, l'armée égyptienne. C'est censé être un symbole d'honneur, un symbole de respectabilité, un exemple pour le pays, une entité ô combien respectable. Quand j'ai commencé à travailler avec eux, j'ai commencé à comprendre ce qu'était la corruption. Quand Abdel Fattah al-Sisi est arrivé, je ne m'en suis pas rendu compte la première année. Je ne faisais que travailler. Les deals signés sous la table, tu distribues de l'argent à tout le monde. C'est normal en Égypte, mais l'armée fait ça de manière très intéressante.
Voilà, Mohamed Ali, donc ce lanceur d'alerte égyptien à propos de ses relations avec l'armée. Clémence Thuaire, c'était vrai évidemment déjà à l'époque de Moubarak. On sait que l'armée avait la main sur une bonne partie de l'économie. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que cette mainmise est plus forte ou moins forte qu'à l'époque de Moubarak, Clémence Thuaire ?
Bah clairement, oui, l'empire économique de l'armée égyptienne s'est étendu depuis 2011, avec en plus depuis 2013 le retour au pouvoir de personnalités proches des militaires dans un premier temps, puis d'un militaire, donc avec la présidence de Sisi depuis 2014. Le pouvoir politique et le pouvoir économique de l'armée, finalement, vont de concert et s'entretiennent l'un l'autre. Plus l'armée a de pouvoir économique, plus elle a de pouvoir politique, et son pouvoir politique lui permet aussi de renforcer son empire économique. Donc, cela crée des frictions, évidemment, que là, comme on vient de le voir avec Mohamed Ali, avec des entrepreneurs privés, hein, qui ont l'impression d'être face, enfin, pas seulement l'impression, ils sont face à une concurrence un peu déloyale, puisque l'armée a à disposition une main-d'œuvre non syndiquée avec les conscrits et a accès plus facilement aux ressources de l'État. Donc ça crée des frictions, ça entretient donc l'opposition d'une partie des élites économiques. Et ce qui est intéressant là aussi avec ce qu'on a vu avec Mohamed Ali l'année dernière, c'est que finalement on voit que cet entrepreneur de l'immobilier qui a appelé aux manifestations contre le régime en septembre 2019 a été suivi beaucoup dans des quartiers où justement sont contestés les projets immobiliers du gouvernement. Donc on voit que la question urbanistique, la question de la réorganisation territoriale de l'Égypte avec la nouvelle capitale, la transformation du Caire en pôle touristique entretient finalement une contestation au régime avec une base populaire dans certains quartiers, dans certaines zones du pays.
On va revenir justement sur ces contestations parce qu'effectivement, ces vidéos avaient provoqué d'importantes mobilisations dans les rues du Caire. Elles se sont arrêtées, mais ce serait intéressant de savoir si elles pourraient finalement reprendre et si, au fond, un nouveau soulèvement populaire est possible. Mais d'abord, je voudrais vous entendre, Stéphane Lacroix, sur cette question du lien entre l'armée et l'économie. C'est très difficile, évidemment, de savoir jusqu'où l'armée a la main mise sur cette économie. Alors, moi, j'ai lu un certain nombre de chiffres, mais j'imagine que c'est très très dur à mesurer. On dit qu'elle a l'armée 25-45%, ça va de 25 à 45% de l'économie du pays. Est-ce qu'on a un peu une idée justement de l'ampleur de la catastrophe, si je puis dire? Et puis, faisons un tout petit peu d'histoire, Stéphane Lacroix. Essayons de regarder depuis quand cette armée a ce contrôle de l'économie. À quand faut-il remonter pour retrouver les sources de tout ça, Stéphane Lacroix?
Oui, alors sur les chiffres, 25-45%, sur des chiffres qu'on entend, on n'en sait en fait véritablement rien, parce que évidemment tout ça est très opaque. Donc tout ce qu'on a, ce sont des estimations. Et cette histoire, elle remonte à la période nassérienne, là encore, hein, puisque sous Nasser se met en place un régime militaire et un régime militaire socialiste, avec une économie étatisée. Et donc, l'étatisation de l'économie se fait pendant la période nassérienne sous l'égide de l'armée. Et ce contrôle d'une partie de l'économie par l'armée, elle remonte à la période de l'économie socialiste étatisée sous contrôle militaire de l'époque nassérienne. Alors, c'est vrai qu'à partir de la période Sadat, on va voir se développer en parallèle un secteur privé, puisque Sadat est celui qui, en 1974, décrète ce qu'on appelle en arabe l'infitah, c'est-à-dire la libéralisation économique, et donc la mise en place de nouvelles politiques vouées à mettre en place les bases d'une économie libérale. Et depuis, l'Égypte, sur le plan économique, en fait, est un modèle hybride, c'est-à-dire un modèle qui reste par certains côtés très étatisé, avec en tout cas des restes très forts de l'étatisation nassérienne, et avec en parallèle le développement d'un système économique libéral avec un secteur privé multiple et à certains moments relativement fort. Et toute une partie en fait des transformations de l'Égypte de ces 40 ou 50 dernières années, on peut les lire aussi à l'aune de cette concurrence entre entre secteur privé et militaire pour le contrôle de l'économie. Mmh, mmh. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure un peu dans la révolution de 2011. Elle est aussi rendue possible par cette concurrence, hein, puisque l'un des éléments décisifs qui va faire que les militaires vont soutenir la rue, c'est parce qu'ils se sentent menacés par le secteur privé et par ces hommes d'affaires proches de Moubarak qui leur font de l'ombre économiquement. Donc on a aujourd'hui une armée qui en a profité pour reprendre la place centrale qu'elle estime devoir occuper politiquement, mais aussi économiquement. Donc c'est elle, si vous voulez, c'est comme dans une mafia. Hein. Au bout du compte, la question c'est de savoir qui est le parrain, quoi. Hein. À l'époque Moubarak, l'armée est un acteur qui est important économiquement, mais qui n'a plus cette centralité. Aujourd'hui, l'armée est devenue incontournable économiquement. Donc, c'est ce que dénonce Mohamed Ali. C'est par elle que passent tous les contrats. Et donc, quand vous êtes un jeune entrepreneur égyptien comme Mohamed Ali et que vous voulez faire de l'argent, eh bien, vous devez devenir vous devez travailler pour des contrats de l'armée.
Stéphane Lacroix,
c'est dépendre.
Ouais. Stéphane Lacroix, pour aller justement bien comprendre les choses, on comprend bien ce verrouillage de l'économie, mais la question est jusqu'où est-ce que c'est pour la population insupportable. Je veux dire, on peut avoir une situation de corruption de mainmise comme vous décrivez, mais une forme de redistribution et donc d'acceptation de l'opinion parce que, eh bien, malgré ses défauts, on arrive à peu près les uns et les autres à s'en sortir. Sauf que quand on regarde la situation économique et sociale du pays, on se rend compte qu'elle est extrêmement dégradée, pour le moins. On a un niveau de chômage qui est très élevé, on a une inflation qui est galopante. On imagine que ce verrouillage devient de plus en plus insupportable pour, en tout cas, une bonne partie de la population, Stéphane Lacroix.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on est dans des logiques de prédation. Donc vous avez des classes qui sont des classes économiques qu'on pourrait dire prédatrices. À l'époque, Moubarak, les prédateurs en chef sur le plan économique, c'était les hommes d'affaires qui gravitaient autour de Moubarak et qui étaient accusés et à raison de confisquer toute une partie de la richesse du pays à leur profit, ou en tout cas toute partie des revenus de la production du pays à leur profit. Aujourd'hui, ce sont des militaires qui ont pris leur place. Pour la population, en vérité, ça change pas grand-chose puisque le vrai problème, il est dans les inégalités ou l'inégale redistribution des richesses qui profite toujours, effectivement, dans chaque cas, une classe prédatrice. La classe prédatrice, aujourd'hui, n'est plus la même, mais du point de vue de la population, effectivement, les retours pour la population, dans tous les cas, sont peu importants. Et donc, ça crée des frustrations énormes dans la population. Et on peut dire, d'une certaine manière, que si les inégalités étaient la cause un peu de la révolution de 2011, et c'est vrai que ces inégalités économiques avaient été l'un des moteurs de la révolution de 2011, eh bien aujourd'hui, elles sont toujours là, et peut-être même d'une certaine manière pire qu'avant, parce qu'aujourd'hui, il y a plus d'acteurs qui se partagent le gâteau, d'une certaine manière. Hein. L'armée a repris sa part du gâteau, les hommes d'affaires continuent de graviter autour pour obtenir les miettes, et la population, là encore, de nouveau, est un peu oubliée dans cette... Dans cette répartition.
Alors justement, Clémence Teur, compte tenu de cette prédation, est-ce qu'un nouveau soulèvement populaire serait possible, selon vous, ou est-ce que, compte tenu précisément du fait que l'armée a non seulement repris sa part du gâteau, mais en réalité renforcé ses positions sur l'économie, il lui serait absolument inenvisageable de lâcher Al-Sisi et donc de se mettre, comme elle l'avait fait en 2011, du côté du peuple. Et ça, le peuple le sait bien, donc un soulèvement populaire, aujourd'hui, on oublie. Clémence Tuer.
Bah, écoutez, on ne peut jamais prévoir les révolutions, hein, donc je ne m'y risquerai pas. Ce que je peux dire, peut-être pour compléter ce qu'a dit Stéphane, c'est que effectivement, il y a un problème d'inégalité économique qui était à la source de la révolution de 2011, et aussi d'inégalité territoriale entre un cœur de l'Égypte plus développé, donc le Caire, Alexandrie, les grandes villes du Delta, les villes du canal de Suez aussi d'un côté, et des zones moins investies en tout cas économiquement et par l'État, donc dans le sud du pays et dans les marges désertiques du pays. Et ce qu'on a vu pendant la révolution et pendant les élections qui ont suivi, c'est aussi une opposition donc entre cette Égypte développée, alors dans laquelle on trouvait à la fois des acteurs révolutionnaires, hein, des Nassériens, des libéraux.
Alors, la liaison s'altère, on va essayer de reposer les choses. Clémence Tuer, je vais donner la parole à Stéphane Lacroix. Et puis peut-être pour avancer. Projetons-nous, Stéphane Lacroix, alors peut-être dans 10 ans, pourquoi pas, puisqu'on commémore là les 10 ans du printemps arabe. Regardons dans 10 ans où on sera. Al-Sissi, il est au pouvoir depuis 2013. Il a été réélu en 2018 avec plus de 97% des voix. Il faut dire qu'évidemment, on avait fait le tri assez largement et qu'en réalité, il n'y avait pas vraiment de concurrents, pas vraiment de rivaux. On a eu une réforme constitutionnelle qui doit permettre à Al-Sissi de se maintenir jusqu'à 2030. J'ai regardé là, il a 66 ans, Al-Sissi, donc il est assez jeune. Donc ça veut dire que dans 10 ans, on aura Al-Sissi encore au pouvoir, Stéphane Lacroix ?
Alors, en tout cas, tout est fait pour que ce soit le cas. En tout cas, Sissi, puisque voilà, le Parlement est à sa botte. Il n'y a pas en Égypte de parti unique. Ça, c'est intéressant d'ailleurs à souligner. Hein. On n'est pas dans un régime de parti unique, mais on est dans un régime où ce sont les appareils de sécurité à la solde de Sissi qui contrôlent en grande partie le Parlement. Et les acteurs du Parlement sont tous pro-régime, à l'exception d'une toute petite minorité, d'une infime minorité. Vous avez un agrégat de parlementaires qui tous dépendent du régime et qui tous votent tel que le leur dit l'appareil sécuritaire. Donc, évidemment, le Parlement fera ce que Sissi lui dit de faire. Donc, si et on l'a vu dans la réforme constitutionnelle récente, où il y a eu très très peu d'opposition. Donc, effectivement, si Sissi a envie de faire prolonger ses mandats ou de se donner constitutionnellement la possibilité de rester au pouvoir ad vitam aeternam, il en a tout à fait la possibilité. S'il n'est plus au pouvoir dans 10 ans, effectivement, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Alors, ça peut être une révolution populaire. C'est vrai que, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, les mêmes causes produisant les mêmes effets, eh bien les causes de la révolution de 2011 existent aujourd'hui en pire. Hein. Si 2011, pour résumer, la révolution, elle était causée par les inégalités économiques et par l'autoritarisme, aujourd'hui, vous avez plus d'inégalités économiques et plus d'autoritarisme. Donc, effectivement, là, on peut se dire qu'il y a un terreau pour une explosion sociale. Et en même temps, effectivement, Clémence Tailleur a raison, on ne peut jamais prévoir quand ça va exploser. D'autant qu'effectivement, le pouvoir joue beaucoup sur le souvenir de 2011 et le souvenir un peu traumatique du risque de l'effondrement de l'État, de la dégradation sécuritaire, joue aussi sur ce qui s'est passé dans les pays voisins en disant on a échappé de peu à une évolution à la libyenne ou à la syrienne, heureusement que l'armée était là. Donc ces arguments-là continuent à mon avis de convaincre une partie de la population de se tenir tranquille, même dans des conditions terribles, parce que la peur est celle d'un effondrement et le régime en joue beaucoup. Et puis, un autre scénario possible, ce serait qu'au sein de l'armée, il se passe quelque chose. Et c'est vrai que, dans l'épisode, par exemple, que vous avez mentionné avec Mohamed Ali et les manifestations qu'il y a eu au Caire en septembre 2019, on a beaucoup soupçonné la possibilité qu'une partie de l'armée soit complice des manifestations, puisque ce qui avait été très surprenant à l'époque, c'était que les manifestants qui étaient sortis donc sur la place Tahrir et dans d'autres endroits du Caire et dans d'autres villes d'Égypte au moment en réponse à l'appel de Mohamed Ali, eh bien ils avaient été autorisés entre guillemets à manifester, en tout cas tolérés. Aujourd'hui en Égypte, quand vous sortez avec une pancarte dans la rue, on vous tire dessus à balles réelles.
Mais pour quelle raison? Pour fragiliser Al-Sissi? Pour quelle raison? Parce que
donc ce qu'on avait imaginé à l'époque, c'est que ça pourrait être effectivement l'expression d'une dissidence d'une partie de l'armée et de l'appareil sécuritaire qui avait voulu tolérer justement ces manifestations peut-être imaginer un renversement en interne de Sissi par une autre faction de l'armée, rejoignant l'éternelle comédie de le peuple est dans la rue et donc nous devons intervenir et renverser Sissi parce que nous sommes du côté du peuple. Donc effectivement, ça avait été très troublant de voir que ces manifestations avaient pu se dérouler. Ce sont et sans que dans un premier temps l'appareil sécuritaire n'intervienne. Donc on sait qu'il y a des dissidences dans l'armée. Sissi est le premier à le savoir. Et si vous regardez ce qui se passe dans l'armée égyptienne depuis quelques années, c'est un vrai jeu de chaise musicale où Sissi ne cesse de déplacer les gens. Il fait en sorte qu'aucun militaire ne puisse accumuler trop de pouvoir. Et donc, en permanence, les postes importants à la tête de l'armée sont occupés
par des gens qui lui sont évidemment très loyaux, mais qui en permanence sont déplacés d'une position à l'autre. Dès qu'on a un doute sur l'un ou l'autre, on le met à la retraite forcée. On promeut des jeunes dont la carrière dépend exclusivement de leur ascension sous Sissi. Enfin, il y a tout un jeu qui consiste évidemment à contrôler l'armée et qui montre que Sissi a peur de l'armée. En tout cas, sait que le scénario le plus probable, s'il devait se passer quelque chose, ce serait qu'une faction de l'armée cherche à le renverser. Ouais. C'est classique dans les régimes militaires, je veux dire. C'est, ce qui les menace le plus, c'est le coup d'état d'un autre militaire au sein du régime.
Ouais, il place des loyaux, et des loyaux tellement proches qu'il a même, par exemple, très récemment, nommé son fils Mahmoud al-Sissi, 38 ans, numéro 2 de l'agence de renseignement. Donc on voit bien ce jeu d'influence que vous décrivez, qui est très fort. D'ailleurs, cette nomination avait fait dire au magazine Jeune Afrique récemment dans un article que peut-être il y avait là une tentation dynastique d'Al-Sissi, mais ça c'est un autre sujet. Nous parlons cette semaine des printemps arabes, des 10 ans des printemps arabes de l'Égypte au Soudan, l'armée aux manettes. On est avec vous Stéphane Lacroix et vous Clément Stoyer. On va prendre la direction justement du Soudan.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Nous ne pourrons pas passer à autre chose si les militaires restent sur la scène politique au Soudan. Mais si nous parlons de ce que nous avons réalisé au cours des 2 dernières années, je peux dire que les médias sont plus libres maintenant et qu'il y a plus de liberté d'expression dans le pays. Cependant, il y a des choses qui nous tirent vers le bas, comme les blessures infligées aux manifestants, qui font, elles, partie de l'héritage du régime répressif d'Al-Bashir.
Voilà un témoignage d'un jeune Soudanais qui a participé à cette révolution de 2019 et qui fait notamment référence à ce qu'on a appelé le massacre de Khartoum lorsque le 3 juin 2019, la junte militaire avait donné l'ordre de disperser les campements de manifestants devant le siège de l'armée, incendiant des tentes, tirant à balles réelles, jetant des corps dans le Nil avec au moins une centaine de morts à la clé, sans compter les blessés, les arrestations, etc., etc. Alors depuis, le pays a amorcé une transition politique avec la mise en place d'un gouvernement mixte, civil-militaire, pour porter cette transition, mais on va le voir, l'appareil sécurité et en particulier l'armée semble toujours au cœur du pouvoir. Bonjour Anne-Laure Mahé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, et chercheur également associé à l'Institut des mondes africains. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des responsabilités concernant ce massacre de Khartoum dont je viens de parler? On va parler évidemment de la transition, mais est-ce que les autorités sécuritaires qu'on a aujourd'hui dans le dispositif de transition sont impliquées dans cet événement tragique?
Alors, c'est un peu un secret de polichinelle autour duquel on a quand même beaucoup de rumeurs, mais l'hypothèse qui est quand même la plus souvent évoquée, c'est celle d'une action de ce qu'on appelle les forces de soutien rapide, une milice paramilitaire menée par quelqu'un qui s'appelle Emeti, qui donc aujourd'hui fait plus ou moins partie intégrante de l'armée, et donc ce serait eux qui auraient commis ce massacre. Mais on a la mise en place d'un comité d'enquête sur ce sujet qui, pour le moment, n'a pas vraiment avancé, à qui on a donné relativement peu de moyens et qui a du mal à avancer, d'autant plus que donc le dirigeant de ces forces de soutien rapide, Emeti, est en partie au pouvoir actuellement.
Anne-Laure Mahé, on a donc ce gouvernement mixte civil-militaire qui est censé organiser la transition politique. Quelle place, quel poids politique réel pour les personnalités qui défendent le principe du transfert aux civils du pouvoir?
Alors c'est compliqué parce qu'il y a énormément de divisions du côté des civils, où vous avez de plus en plus de lignes de fracture qui sont apparues au cours des 2 dernières années et en particulier des derniers mois, ce qui contribue à affaiblir finalement cette coalition face à un acteur sécuritaire, militaire qui reste plutôt cohérent jusqu'à présent. Parce que vous avez évidemment cette organisation qui a été une organisation parapluie qui s'est formée au moment de la révolution, la coalition des forces pour la liberté et le changement, au sein duquel finalement on se retrouvait des partis politiques avec des orientations plutôt conservatrices, à côté de partis plutôt de gauche, voire d'extrême gauche, d'organisations de la société civile, et tout le monde n'a pas la même conception de ce que doit être le nouveau Soudan qui est en voie de construction. Donc actuellement, en plus, cela suscite des critiques vis-à-vis en particulier du gouvernement, qui du coup parfois se retrouve potentiellement assez isolé pour négocier face aux militaires. Et donc si aujourd'hui on a incontestablement des forces civiles qui poussent vers pour la transition et vers un transfert de pouvoir aux civils, même à un niveau très micro, très local, les comités révolutionnaires qui ont émergé, etc., qui continuent leurs activités. Le fait est que la politique politicienne, on va dire, et que les négociations au niveau national sont très, très complexes à ce niveau-là.
Mais pourquoi, Anne-Laure Maé, ça bloque? Si on fait un jeu de comparaison avec l'Égypte, on a quand même eu un moment en Égypte, un recul de l'armée qui a laissé place un processus de transition. Alors, soit, évidemment, on a bien compris que très rapidement, on a repris la main, mais Stéphane Lacroix et Clémence Touillard nous disaient, il y a quand même eu un moment où on a attendu de voir ce qu'il se passait, et quand on a considéré que Morsi était une menace trop importante pour les intérêts de l'armée, on a repris le pouvoir. Mais il y a un moment, quand même, où on a reculé, on a laissé faire. Comment se fait-il que, du côté du Soudan, l'appareil sécuritaire, l'armée, soit toujours au cœur et bloque à ce point le processus de transition?
Alors, déjà, il faut revenir sur la façon dont s'est déroulée la transition, où finalement, c'est au terme de plusieurs mois de manifestations de masse que on a une coalition qui se forme au sein de l'appareil sécuritaire pour renverser Omar el-Béchir, qui lui-même était un militaire de carrière. Et cet appareil sécuritaire était devenu le cœur du pouvoir du régime. Hein. Pendant 30 ans, ça a quand même été là où on a le plus investi dans la dimension sécuritaire et cet appareil qui s'est démultiplié. Donc eux ont renversé le régime, mis en place un comité de transition, mais qui était uniquement composé de militaires. Puis ensuite, dans un second temps, on a eu des négociations avec les civils. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les militaires se sont assurés le maintien d'une présence au sein des institutions, à travers notamment ce Conseil souverain, une institution un petit peu ad hoc, parallèle au gouvernement, dont le rôle n'est pas extrêmement clairement défini, et où se trouve une moitié de civils et une moitié de militaires. Mmh. Et donc finalement, les militaires se sont assurés ça, et en face, certainement que l'expérience égyptienne a aussi pu servir de leçon pour montrer que finalement les militaires peuvent revenir en force et qu'il vaut mieux parfois les ménager, parce que ce sont des alliés quand même. À un moment donné, ça a été des alliés de circonstances pour renverser le régime. Et par ailleurs, je pense que le spectre du chaos, comme ce fut le cas en Syrie, par exemple, pèse quand même extrêmement lourd dans toute période révolutionnaire où vous avez énormément d'acteurs qui agitent ce drapeau rouge en disant « attention, ça peut déraper », etc. Ce qui sert d'argument aux militaires pour maintenir leur présence.
Et le spectre du djihadisme également, parce que du côté de l'Égypte, le retour de l'armée s'est fait au motif, justifié ou pas d'ailleurs, qu'il fallait faire obstacle à l'islam politique et son potentiel glissement vers des formes plus radicales, vers des formes plus violentes. Est-ce que cet argument a aussi été mobilisé du côté de l'appareil sécuritaire soudanais?
Alors, à ma connaissance, non, vraiment pas. Je pense qu'au Soudan, c'est... Alors déjà, l'ancien régime était un régime né d'une itération soudanaise des frères musulmans. En fait, vous n'avez pas de purge des islamistes au sein de l'armée. Ce sont des catégories qui ne sont pas mutuellement exclusives, être islamiste et être militaire. On n'est pas du tout dans le même cadre de menaces terroristes islamiques sur le territoire soudanais. Et par ailleurs, on est aussi dans un contexte, et je pense que c'est important de le rappeler, dans un contexte de conflit civil au Soudan, qui n'est pas le cas en Égypte, où en fait, l'une des grandes parties de la transition, c'est quand même les négociations de paix avec les groupes rebelles.
Ouais.
Évidemment, les militaires sont des acteurs de taille dans ces conflits.
Alors, justement, cet accord de paix, on va peut-être finir là-dessus, parce que septembre dernier, il y a cet accord qu'on a souvent qualifié d'historique, et signé par les autorités de transition et plusieurs mouvements rebelles, pas tous. On met là un terme, en tout cas en théorie, il y a plus de 15 ans de conflits qui ont fait des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés, en particulier du côté du Darfour. Et en marge de la cérémonie, le porte-parole du gouvernement, Faisal Mohamed Saleh, a expliqué que la transformation du Soudan d'une dictature vers une démocratie avait enfin commencé avec cet accord de paix. Vous êtes d'accord, c'était une étape indispensable pour aller justement vers plus de démocratie? Peut-être que les choses pourraient se débloquer derrière?
Oui, alors c'est une étape indispensable effectivement à toute transition démocratique et de toute façon une étape indispensable pour construire et questionner les bases de la construction étatique au Soudan. Après, la question de savoir si ces acteurs rebelles vont être des acteurs pro-démocratiques se pose également. La transition, par exemple, on le sait dans d'autres cas, de certains chefs rebelles, transformation en politiciens, ne se fait pas nécessairement aisément. C'est des acteurs qui ont quand même toujours des capacités d'action militaire et qui pourraient créer des alliances et qui, en fait, ont parfois plus de facilité à discuter avec les militaires qu'avec les civils. parce qu'ils se sont combattus, et notamment avec les forces paramilitaires et les métis, ils se sont combattus, ils se sont mutuellement emprisonnés, ils se connaissent, peuvent venir des mêmes régions dans le cas des métis, qui vient du Darfour. Donc finalement, est-ce que on va voir les orientations politiques, finalement, les projets politiques de ces groupes-là, comment ils vont se transformer, se traduire en étant intégrés à cette nouvelle scène politique en formation? Et il n'est pas certain que ce soit nécessairement une coalition. Enfin, il n'est pas certain de finalement à qui ils vont se raccrocher, avec qui ils vont négocier, de quel côté ils vont faire pencher la balance.
نداء لكل اخواني ليبرالي لسوانجي ابوك قاضي خليني اقول اللي في بالي بلاش نتكلم في الماضي راح كله جراح دخلوا علينا مصطلحات غريبه زي حكومه تكنوقراط الفساد كان مالي البلد ريحته فايحه زي تحت الباط والظباط ماشيين بالزمبلك زي روبوكاب بلغه الضاد بعبر عن حاله اضطهاد زمان لو عملت اضراب كنت تتضرب بالكرباج هم دول اللي احنا بنسميهم فلول النظام المصري بيضرب فول بانتظام يظبط تمام بتتصدروا في التافهه لسه بتصدروا غزنا لسه بيحصل في غزه بص اللي بيحصل لبلدنا تحرش كل يوم فالحين تتشطروا بعزه طلعنا احنا الاغلبيه وانت بكل المنتسب.
Merci infiniment à vous, Anne-Laure Mahé, nous avoir éclairé sur cette situation du côté du Soudan pour essayer de mieux comprendre comment cet appareil sécuritaire, l'armée soudanaise, eh bien, freine cette transition malgré les efforts, malgré les accords de paix. Un grand merci à vous. Un grand merci également à nos deux invités, Clément Stoyer et Stéphane Lacroix, nous avoir éclairé sur l'Égypte. Je rappelle, Stéphane Lacroix, que vous êtes auteur notamment de l'Égypte en révolution qui était paru au PUF. Clément Stoyer, vous aviez notamment participé à un ouvrage collectif « We are the people ». On va remettre toutes ces références sur le site de Culture Monde. On avait encore énormément de questions à vous poser. Alors, on prend rendez-vous. Peut-être pas pour les 20 ans. On n'attendra pas l'anniversaire des 20 ans. On se retrouvera avant l'un et l'autre. Un grand merci en tout cas à tous les deux.
كلام لو قلت الواحد أمي كان فهم من زمان يظهر وبان عليك الإخوان عليك الإعلام اللي لسه ما تغيرش من أيام ماما سوزان مات الكلام وأنا بتفرج على النواب البرلمان دافنين راسهم تحت الأرض زي النعام.
C'est avec ce rappeur égyptien Dib qu'on suspend jusqu'à demain notre série consacrée aux 10 ans des printemps arabes. Dans quelques instants on retrouvera Olivier Gisbert et la Grande Table, mais tout de suite 11h52 minutes, c'est l'heure de retrouver Brice Couturier et son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
La vie politique est en train de devenir si aberrante que les politologues, les historiens, les sociologues, tous ceux qui semblent être disposés de compétences spécialisées susceptibles de nous éclairer sur les mouvements d'opinion et leur traduction électorale, semblent avoir perdu les pédales.
Eh oui, parce que savoir comment Mussolini a conquis le pouvoir en Italie ne nous aide guère à comprendre pourquoi Donald Trump a lancé ce baroud d'honneur sur le Capitole. Et une fine connaissance du système des castes en Inde ne fait pas avancer non plus notre compréhension de la politique menée par Narendra Modi. Pas plus que ne paraît pertinent le parallèle entre les gilets jaunes et le poujadisme, tous deux relevant pourtant de la catégorie du populisme français. Non, les professionnels vers lesquels on se tourne de plus en plus pour tenter y comprendre quelque chose sont, aux États-Unis, les géographes et les psychologues. Les premiers ont mis en lumière le caractère spatial du vote Trump lors des élections de 2016, confirmé par celle de l'an dernier. La règle est simple, plus on s'éloigne des deux côtes, Atlantique et Pacifique, et plus on s'éloigne d'une grande métropole, et plus les comtés sont susceptibles de voter pour Trump. Quant aux psychologues, en particulier les spécialistes de psychologie sociale, ils sont mis à contribution pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens au moment de choisir un candidat aux élections. On s'adresse à eux parce que le comportement électoral des populations ne correspond plus à celui que prédisait la sociologie. Cela fait des années, par exemple, des décennies même, que les pauvres ont cessé de voter à gauche. Ce n'était donc pas un accident destiné à être corrigé, non, les déterminations sont devenues individuelles, mais là encore, elles obéissent cependant à des lois repérables. Alors j'ai dit à plusieurs reprises sur cette antenne combien la lecture du livre de Haidt, un psychologue justement, et Lukianoff, The Coddling of the American Mind, avait enrichi ce que je crois comprendre des États-Unis d'aujourd'hui. Leur thèse centrale, Les générations nées depuis 1980 ont été surprotégées par leurs parents et leurs enseignants, insuffisamment exposées aux multiples défis que comporte le passage à l'âge adulte. Les Américains de moins de 40 ans manquent de la résilience qui leur permettrait d'y faire face. Et du coup, ils réagissent de manière agressive en exigeant des autorités qu'elles suppriment ce qui les dérange et interdisent ceux qui les contredisent.
Oui, c'est la fameuse Snowflake Generation dont vous nous avez déjà parlé, Brice. Alors, il y a deux psychologues américains, Jordan Moss et Peter O'Connor, s'inspirant de l'essai de Haidt et Lukianov, qui ont cherché à vérifier leur thèse.
Oui, ils ont travaillé sur un échantillon représentatif d'Américains et ils ont testé leur réaction à toute une série de questions tournant autour de la politique. Première conclusion, il y a bel et bien une radicalisation des électorats, tant à gauche qu'à droite. Certes, selon eux, 30,9% de l'échantillon en question peut encore être caractérisé comme modéré. Mais ils ont trouvé 8,2% d'extrémistes déclarés à gauche et 6,1% à droite. En outre, 14,1% des blancs interviewés ont donné des réponses qui les classent nettement du côté de l'alt-right. À gauche, ils distinguent deux types de personnalités favorables à la political correctness. Vous avez les libéraux, caractérisés par l'ouverture d'esprit, la compassion, un faible degré de conscience de leur identité, et puis de l'autre, les autoritaires, avocats de la cancel culture. Les premiers jugent favorablement la compassion et la politesse, les seconds font preuve de ce qu'ils appellent l'absolutisme moral, c'est-à-dire qu'ils jugent faire partie, eux, des bons, dans le cadre d'une vision manichéenne du monde qui renvoie leurs adversaires politiques du côté des méchants. À droite, ils ont repéré l'effet en miroir de la politique des identités sur une fraction de l'électorat blanc. Là aussi, on trouve des tempéraments autoritaires. L'alt-right est composé de personnes qui croient à l'existence d'une conspiration contre les blancs, mais qui ne se reconnaissent pas dans le conservatisme classique. Ils sont surtout exaspérés contre tout ce qui leur paraît progressiste. De plus en plus, concluent les auteurs de cette étude, les Américains votent moins pour un programme ou une personnalité que contre ce qu'ils perçoivent comme un danger, comme une agression à leur égard. Ainsi, ce n'est pas le conservatisme qui a encore poussé 74 millions d'électeurs à voter pour Trump, non, pour une grande partie d'entre eux, c'est une opposition épidermique à la gauche woke qui les a mobilisés. Beaucoup se sont sentis agressés, en particulier par des accusations de racisme et de sexisme qu'ils estiment imméritées. Et Jordan Moss conclut l'article qu'il signe sur le site Areo par une mise en garde adressée aux deux camps. La droite conservatrice ferait bien de se tenir à l'écart des identitaires blancs et la gauche libérale des excès de la cancel culture. Car de manière générale, la droite et la gauche autoritaire tendent à mobiliser le camp d'en face et donc à en radicaliser les électeurs.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique. Il faut davantage écouter les géographes et les psychologues. Donc un grand merci. On peut retrouver évidemment votre chronique sur le site de France Culture, mais également sur l'application Radio France. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.
France Culture. L'esprit d'ouverture.